Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le monde n'est pas facile, il n'est pas gentil, disait un ancien président de la République. En cette rentrée, ou pendant que nos bambins reprennent le chemin de l'école, des missiles nucléaires intercontinentaux volent au-dessus des têtes des petits Japonais. Difficile de ne pas replonger dans le bain de l'actualité, des drames de la vie des hommes. Au menu aujourd'hui, pas seulement l'actualité internationale, mais aussi évidemment l'actualité politique, qui elle non plus n'a pas été de tout repos pendant l'été. Voilà pour cette émission, donc le grand débat de Vivante Église avec nos grandes gueules. On hésite entre le grand débat et les grandes gueules, mais on va finir par se déterminer sur le nom. En tout cas, c'est toujours le grand débat autour du plateau. En ce vendredi matin, honneur aux dames, Daniel Cabanis, je vous rappelle, ancien professeur d'histoire du droit à l'université Toulouse 1 Capitole et chroniqueuse géopolitique sur Radio Présence, chronique le jeudi à 7h50, n'est-ce pas Daniel ?
Bonjour. Certes.
Bonjour.
Anne de la Doucette, fondatrice de la formation Passeur d'Espérance, formation en anthropologie chrétienne à Toulouse, en lien avec les Dominicains de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et un nouvel invité de cette émission, Bernard Ribal, philosophe, conseiller spécial du président de la CFTC et vice-président des Semaines Sociales de Toulouse. Bonjour.
Président des Semaines Sociales de Toulouse, mais c'est pas grave. Bonjour quand même.
Bonjour quand même. Il n'y aura pas d'erreur la prochaine fois. Alors on va commencer par les sujets France pour cette émission. Je vous proposais de commencer donc par l'histoire des travailleurs détachés, par cette directive européenne qui n'est pas sans poser de questions. Alors, je redonne quelques éléments d'actualité. Cette directive européenne, Emmanuel Macron en a fait un de ses chevals de bataille en cette rentrée. Certains disent que c'est un calcul politique, mais on peut imaginer que c'est autre chose aussi. Elle prévoit, depuis en fait, le 16 décembre 1996, qu'un travailleur détaché peut faire valoir quelque part sa main d'œuvre dans un pays tiers de l'Union européenne, mais c'est soumis à un certain nombre, normalement, de règles. Entre autres, ça ne doit durer que 12 mois, voire parfois 24, et il y a un certain nombre de conditions légales. Je donnerai juste quelques chiffres. Avant qu'on lance la conversation. En France, ça concernerait 686 000 personnes aujourd'hui, alors qu'il y en avait seulement 38 000 en 2006. La France serait un des pays les plus concernés, et ça serait essentiellement en France, des Polonais, des Portugais et des Espagnols. On va commencer, par vous, Bernard Ribal, qui êtes peut-être branché plus que d'autres sur les sujets société. Que vous inspire ce combat d'Emmanuel Macron ?
Oui, alors pour Monsieur Macron, c'est nouveau. Enfin, c'était déjà dans la campagne, mais pour les syndicats, c'est ancien. Il y a plusieurs problèmes, plusieurs paradoxes là-dedans. On veut construire l'Europe, et personnellement, je suis très favorable et très militant pour la construction européenne, mais il s'agirait d'une Europe quand même un peu homogène, quoi. Et dans ce que vous venez de dire sur les travailleurs détachés, on a parlé il y a quelques années du plombier polonais. C'était devenu une métaphore légendaire.
C'était un des thèmes de campagne, presque de la campagne de Sarkozy.
Oui, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. M. Macron, là on parle maintenant, je ne dis pas qu'il le découvre. On n'entend parler que depuis un an de M. Macron. Mais les travailleurs détachés, c'est quand même le fait qu'un travailleur polonais, par exemple, peut être détaché par son entreprise, donc il reste sous la gouvernance de son entreprise polonaise, et du coup, il est payé, et ses cotisations sociales et tout le reste sont très très inférieurs à ce qui se fait en France, et du coup, il y a un dumping social absolument inadmissible, quoi.
Très inférieur. Les cotisations sociales en France sont autour de 45%. En Roumanie, c'est 13%. En Slovénie, 21%.
Oui, mais voilà.
Il s'agit juste des cotisations sociales, du salaire minimum.
Mais il y a aussi le salaire. Il y a aussi le salaire, plus les sociétés écrans. Mais ça, on entre là dans la fraude. Mais les sociétés écrans qui sont faites uniquement pour les travailleurs détachés. C'est pour ça qu'on arrive à ces chiffres extraordinaires de presque 700 000. Travailleurs détachés. Donc c'est, M. Macron a tout à fait raison, c'est totalement inadmissible. Et ce qui est encore inadmissible, c'est que l'Europe, la Commission, semble avoir pas énormément de moyens, c'est bizarre, ça, pas énormément de moyens pour contraindre la Pologne à changer d'attitude. Alors, c'est vrai aussi, on est dans une émission sérieuse. On va nuancer. La nuance, c'est que c'est la libre circulation des hommes, dont les travailleurs. Et s'il y a une libre circulation, ils circulent. Et l'argument polonais, c'est de dire, on fait circuler. envoyez-nous les travailleurs français. Non, ils n'y vont pas, justement, les travailleurs français. Donc là, il y a quelque chose à revoir, d'autant que ça fait quand même partie d'un ensemble polonais. C'est pas la première fois cette année que la Pologne défraie la chronique en ce qui concerne la politique. Et en particulier, on lui reproche la mise en cause de l'état de droit.
Alors on va faire réagir nos autres invités. En tout cas, Emmanuel Macron a eu ses mots forts lors de sa tournée européenne. Il a parlé d'une trahison de l'esprit européen. Voilà. Lors d'une tournée, première étape de tournée en Europe centrale, République tchèque, Slovaquie, Roumanie et Bulgarie. Anne de la Doucette, qu'est-ce que ça vous inspire cette...
Là, moi, je prendrai...
Vous êtes macroniste cette fois-ci ou pas?
Je pense que c'est vrai que ce problème est à régler. Je pense aussi que toujours critiquer les autres, on pourrait peut-être essayer de baisser nos charges sociales, parce qu'on modifie le code du travail. On sait qu'en France, les charges sociales sont colossales. Moi, je vois beaucoup d'artisans qui ne s'en sortent plus à cause des charges sociales.
Ouais, pour les salariés, elles vont être supprimées. Là.
Oui, mais bon, ouais. Les artisans ne s'en sortent plus. On voit qu'ils ferment, on voit qu'ils suicident. Donc, il y a peut-être aussi un travail de fond à faire en France au niveau des charges sociales par rapport, qui sont quand même peut-être les plus élevées d'Europe, non, je crois. Est-ce qu'il y a un pays en Europe qui a des charges sociales aussi élevées que les nôtres?
Oui, il y en a, mais de grands pays, on est les seuls. De grands pays européens, on est les seuls.
Mais à cette réserve près, Anne, vous saluez quand même l'initiative ou pas?
Je trouve qu'il faut régler le problème. C'est vrai que c'est pas normal.
Mais les ordonnances, quand même, vont dans votre sens. Hein.
Voilà. Donc oui, ça pèse un peu, notamment pour tout ce qui est licenciement économique. Et,
le RSI et voilà. Est supprimé.
Absolument. Mais je mettrai un bémol quand même, vous voyez, parce que je pense que la Pologne a sa propre histoire. On tombe sur la Pologne en disant qu'elle ne peut pas accueillir de réfugiés, que ceci, que cela. La Pologne, elle est sortie d'un régime communiste et puis d'un régime nazi. Elle est très attachée à son identité, elle est très attachée à sa culture. Et l'attitude de Monsieur Macron vis-à-vis de la Pologne, en essayant de lui donner des leçons de droits de l'homme et autres, était malvenue dans cette histoire. Autant au point de vue économique, je trouve que peut-être qu'il faut trouver des solutions et qu'on limite l'arrivée des...
Oui, sur le fond, mais non sur la méthode.
Non sur la méthode. On n'a pas de leçon à donner à la Pologne en matière de droits de l'homme, je crois.
Daniel Cabanis.
Je partage tout à fait l'avis d'Anne. Je crois que nous avons une fâcheuse tendance à toujours donner la leçon, à expliquer ce qu'il faut faire, alors qu'il y a des choses qu'il faut faire chez nous que nous ne faisons pas. Quand nous aurons un pas de porte tout à fait propre, peut-être qu'on pourra l'envisager, mais pour l'instant...
En même temps, il y a forcément un rapport de force, en l'occurrence, dans cette,
oui,
dans cette discussion.
C'est... Jusqu'à un certain point, oui. Mais en même temps, M. Macron se fait l'interprète des Anglais dans leur lutte contre les Polonais, par exemple, dans le domaine médical, puisque les médecins polonais acceptaient de venir travailler le week-end pour suppléer les médecins britanniques du National Health Service, et en se contentant d'un salaire un petit peu plus bas. Donc c'est un phénomène qui est très général. Il y a bien une forme de concurrence déloyale, mais on doit s'interroger sur les conditions qu'on a chez nous avant de dire que c'est le méchant qui est que l'extérieur est systématiquement le méchant.
Surtout qu'on a accepté quand même beaucoup de médecins roumains qu'on n'a pas formés. Alors qu'on pourrait augmenter nos numerus clausus, il y a des milliers de jeunes qui aimeraient être médecins et à cause des numerus clausus de plus extrêmement restreints, ne peuvent pas l'être en France. Donc je crois qu'il faut, comme vous dites, Mme Daniel, balayer un peu dans sa porte avant de donner les leçons au monde entier.
Bon, enfin, le dumping social n'est pas admissible, hein, et pas conforme à l'idée européenne, et qu'en plus, la violation de l'état de droit par la loi polonaise ne paraît pas un détail, quoi.
Voilà, remarque faite de... En tout cas, j'avais une autre question, Bernard Ribal, sur ce sujet. Peut-être si vous pouvez faire une réponse relativement courte. Donc, la ministre Muriel Pénicaud et Andrea Nals, donc tous deux ministres du Travail, si je ne me trompe pas, veulent tendre vers cette règle de droit dans l'Union européenne, donc à travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail. Est-ce que c'est imaginable, en fait, ça? Est-ce que c'est...
Alors là encore, c'est la nuance qui l'emporte dans la réponse, parce que l'Europe sociale, c'est vrai, elle est très très en retard, et la rendre totalement homogène, difficile, voire impossible. Je me demande même si c'est souhaitable. Je suis un peu en retrait, à la limite, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que l'Europe sociale intégrale, ça signifierait qu'il n'y a plus de retraite par répartition en France. L'immense majorité des Européens, c'est la retraite par capitalisation. On ferait une loi uniforme sur les retraites en Europe, plus de retraite par la participation en France. On ne va pas parler des retraites par participation, si c'est bien ou pas. Enfin, les Français ont le droit peut-être de décider de leur forme de retraite. Et il y a d'autres, on pourrait prendre d'autres points de vue, hein, le SMIC en Allemagne, etc. Donc, l'homogénéité de l'Europe sociale n'a pas été voulue au départ, et elle est difficile aujourd'hui, même dans la défense des intérêts de chaque pays.
Alors, on va passer maintenant à la loi de moralisation de la vie politique, donc qui a été votée pendant cet été et qui comprend quand même un certain nombre de choses, et pas que, comment dire, d'empêcher nos parlementaires de faire travailler des membres de leur famille, même si ça c'est un premier volet, extension qui est faite, je crois, à d'autres, aux autres élus. Mais c'était aussi la suppression de la réserve parlementaire qui a été votée. Voilà, il avait été un temps évoqué une autre manière, comment une forme de gestion en fait de cette réserve parlementaire par l'ensemble du Parlement et attribution après vote. Ça a été, sauf erreur de ma part, ça a été supprimé. Voilà, suppression aussi de la réserve ministérielle. Pour éviter les conflits d'intérêts, on ne pourra plus exercer de fonction de conseil pendant un mandat. Enfin, et j'ai noté ça, les collaborateurs, enfin c'est pas enfin, c'était l'article qui est écrit comme ça, mais les collaborateurs parlementaires ne pourront plus être rémunérés par des lobbies, incroyable, je savais pas que c'était le cas, et il y aura même, pour un membre, enfin, a été créé par ordonnance, une banque de la démocratie et un médiateur du crédit pour aider au financement de campagne des partis. Voilà, c'est, je pense avoir dit l'essentiel. C'est une énième, le terme est un peu péjoratif, mais il y a eu d'autres lois de moralisation de la vie politique ces dernières années. C'est pareil, est-ce que vous saluez, on va commencer par vous Daniel Cabanis, toutes ces décisions, est-ce que vous semblez heureuse?
Alors, sur le plan du principe, la qualité de cette loi, c'est d'être clair, hein, de bien montrer qu'on veut faire une réelle coupure avec le passé. Et comme toujours, quand on veut faire des coupures, on coupe parfois un petit peu à l'âge. On a souligné, par exemple, que finalement, les parlementaires et autres élus seront à peu près les seuls en France qui ne pourront pas faire travailler quelqu'un de leur famille. Dès lors que la plupart d'entre eux ne peuvent pas exercer un autre métier pendant qu'ils sont parlementaires, ça finit par être discriminatoire. Alors, je dirais pas jusque-là, mais peut-être qu'on a un petit peu jeté le bébé avec l'eau du bain. Mais sur le plan du principe, c'est en tout cas une bonne façon d'éviter le retour à des pratiques extrêmement choquantes. La suppression de la réserve est une avancée colossale. Parce qu'alors là, il y avait de la petite cuisine électorale quand ça n'était pas carrément des avantages personnels pour le personnel politique. Donc ça, c'est bien.
Voilà, Mme Macron a dit la vie politique, la vie publique a aujourd'hui besoin d'un choc de confiance. Anne de la Doucette, qu'est-ce que vous
pareil,
en pensez?
Je suis tout à fait d'accord avec Daniel sur la suppression de la réserve parlementaire et que c'est un bien, c'est une avancée, une volonté de nettoyer cette vie politique. Deux choses, il y avait quelqu'un qui rigolait en disant que ça sera plus facile finalement d'employer sa maîtresse que d'employer sa femme. Je crois que c'est comme Daniel qu'on va un peu trop loin, que quelquefois la femme qui travaille à côté est utile et qu'on aurait peut-être pu trouver une manière de limiter sans tout à fait arrêter. En revanche, je trouve qu'il y a un article qui est un peu dangereux, qui est celui sur l'interdiction pour toutes les personnes qui ont fait des faits de discrimination, injures, diffamation publique, provocation à la haine raciale, sexisme ou raison d'orientation sexuelle. Toute personne qui aura été condamnée pour des propos dans ce sens ne pourra pas être élue.
Ça a été étendu en fait à d'autres, oui, à d'autres faits. C'était les faits de discrimination, injures ou diffamation publique, provocation à la haine raciale, sexiste ou à raison de l'orientation sexuelle. Voilà.
Et aujourd'hui, comme on a beaucoup de sujets pas litigieux, mais compliqués à gérer en France, à ce sujet-là, on en reviendra peut-être sur la GPA, parce que je voulais vous parler de la GPA dans mon coup de gueule. Est-ce que si demain vous dites « je suis contre la GPA », vous ne serez pas condamné pour homophobie et du coup vous ne pourrez pas être élu à l'Assemblée parlementaire? On s'est appelé très loin. Je pense que cet article est dangereux et peu de gens l'ont souligné. Je crois qu'à l'Assemblée, il n'y a qu'Emmanuel Ménard qui est monté au créneau, mais pas beaucoup de députés.
C'est sous peine d'inéligibilité. Hein, c'est...
Sous peine d'inéligibilité, donc on ne pourra plus être élu. Je crois que, voilà, si on avait une justice absolument neutre, complètement neutre, pas sous la pression de ce qui se passe aujourd'hui, on est quand même dans une période de tension et de passion, c'est dangereux, voilà, c'est un peu dangereux. Les dérives peuvent très vite arriver, et je ne crois pas que ce soit un bon article.
Bernard Ribal, votre sentiment?
Bon, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais j'ajouterai quelque chose qui...
Y compris le dernier point qu'a souligné Anne de la Doucette.
Oui.
Je ne trouve pas les motifs, mais je trouve le manque de précision des mots dangereux.
Oui.
Ce qui n'a pas de limite.
En particulier ce que vous avez dit au début, on ne voit pas pourquoi il est interdit à la femme d'être collaboratrice. On ne voit pas bien là. Bon, mais ce qui me scandalise, c'est qu'on puisse confondre loi et morale, quoi. Mmh. D'ailleurs, ils ont failli se tromper, quoi. Hein. Le titre, à un moment, c'était « Loi sur la morale politique ». Avec « Loi et morale » dans le même titre. Or, c'est deux choses complètement différentes. Ça veut vraiment dire, c'est l'aveu que la morale n'existe plus. Je ne suis pas d'accord, d'ailleurs, je pense qu'elle existe. Mais ceux qui écrivent ça pensent que la morale n'existe plus. La morale, c'est une obligation intérieure de sa propre conscience. La loi, c'est une obligation extérieure qui vient de l'État, même si l'État est démocratique. Une loi sur la moralisation, en fait, c'est ahurissant, quoi. C'est ahurissant. Et surtout que...
En même temps, il y avait du travail, donc...
Ça accouche quand même d'une souris, hein. Parce que dire que les attachés parlementaires pourront plus avoir des rémunérations des lobbies, c'est un coup d'épée dans l'eau. Les lobbies ont une puissance extraordinaire. Et c'est officiel, c'est pas illégal, hein. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de lobbyistes à Bruxelles.
Mais ils peuvent,
il y a des milliers de lobbyistes.
On peut faire son travail de lobbyiste sans financer les assistants parlementaires.
C'est impossible à interdire. Hein. Si maintenant, dans cette émission, je vous donne un billet de 50 euros, je n'ai pas autre chose, personne ne va le voir parce qu'on n'est pas à la télévision. Et je ne vois pas le fisc venir réclamer quoi que ce soit. Hein. Et c'est ce qui va continuer à se passer. Donc
vous considérez qu'en fait, elle n'est pas allée assez loin, même si dans les termes vous l'avez
expliqué. Non, elle ne sert à rien. Ce côté-là, ce point de vue, ce point de vue-là, sur ce point-là, elle ne sert à rien. Et les conflits d'intérêts, les gens croient que c'est un délit. Le conflit d'intérêts n'est pas un délit. Il n'y a aucun délit. La loi ne condamne pas les conflits d'intérêts. Le conflit d'intérêts, ça veut dire que dans ma fonction de parlementaire, je risque d'être influencé par le métier que j'ai exercé ou que j'exerce encore. Mais la collusion entre les deux est de l'ordre de ma morale. C'est pas de l'ordre de la loi. Et encore une fois, le contrôle de ça est impossible. C'est pourquoi cette loi, personne ne peut être contre le principe, mais elle est curieuse de confondre loi et morale, quoi.
Voilà, il y a autre chose, je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais la situation patrimoniale du président de la République, la haute autorité donc, pour la transparence de la vie publique, qui a été créée donc, il y a quelques années, pourra publier un avis sur l'évolution de son patrimoine entre le début du mandat et la fin de ses fonctions présidentielles.
Personne n'est dupe. Ils prennent vraiment pour des idiots.
Je crois. Là.
Sur ce volet de la moralisation de la vie politique, j'aimerais juste qu'on finisse sur le statut de première dame. Alors ça fait un peu jaser. En fait, ça semble-t-il en partie couché d'une souris. Je rappelle, avait été évoqué donc la création d'un statut pour Madame Macron. Voilà. Et puis il y a eu une forte mobilisation de l'opinion publique, entre autres une pétition qui a circulé, qui a recueilli 290 000 signatures. Et au final, donc, a été décidé qu'il y aurait une charte informelle et que Brigitte Macron, aurait un cabinet en fait avec deux collaborateurs qui sont des anciens de la mairie de Paris ainsi qu'une assistante. Je ferai juste une autre incise. Pas d'autres pays, semble-t-il, en Europe, sauf les monarchies, où la première dame ou l'épouse du régnant est à un statut particulier. Voilà, il faut chercher aux États-Unis. Qu'est-ce que ça vous inspire, Daniel Cabanis?
Ça permet de souligner que la France, en l'occurrence comme les États-Unis, est un pays où il y a une extraordinaire personnalisation du pouvoir. Parce que dans les autres États, y compris les monarchies, là c'est des princes consorts ou des princesses ou des reines ou tout ce qu'on voudra, le rôle est considéré comme tout à fait secondaire et les actions qui sont conduites sont avec les moyens de la liste civile personnelle de celui qui est titulaire du pouvoir et ça ne pose rigoureusement aucun problème, sauf si la liste est largement dépassée ou s'il y a des comportements ambigus, comme ça avait été le cas du prince Bernard des Pays-Bas, qui semble-t-il émargeait auprès de fabricants d'armes, ce qui n'est quand même pas très, très convenable. Mais ce serait resté peu convenable avec des producteurs de patates. Hein. C'est le fait de tirer de l'argent de manière non régulière pour exercer une influence. Qu'on lui confixe un petit peu à quelle sauce elle est mangée, je pense que c'est une bonne chose.
C'était quand même le prétexte qui était avancé, ou la raison qui était avancée, ce qui de loin semble être une bonne raison.
Oui, oui.
Que ça se fasse de manière officielle et pas...
Que ça se fasse de manière officielle. Et en réalité, c'est considéré comme d'autant plus important que jusqu'à maintenant, au moins dans les grands États, les responsables politiques étaient... mariés, donc ils avaient déjà un statut personnel. Or, François Hollande nous a mis le nez sur ce qu'on ne connaissait pas avant, c'est-à-dire un président de la République qui n'est pas marié, ce qui en tant que tel est son affaire, on n'a rien à en penser, mais avec quelqu'un qui est quoi par rapport à lui, qui n'a pas de représentation légale, puisqu'il n'était ni paxé, ni concubin, ni quoi que ce soit. Donc, à partir de là, puisqu'il n'y a plus de statut naturel, ben on est obligé de... Enfin, je crois que c'est une bonne chose de préciser. Et ça permet aussi d'éviter qu'une femme de grande influence se fasse doter d'un personnel très, très abondant qui ne se justifierait pas et qui ferait penser que c'est elle qui exerce un pouvoir qui ne lui appartient pas.
Elle a quand même...
Anne de la Doucette.
Excusez-moi. Elle a quand même sous ses moyens deux conseillers présidentiels et un secrétariat.
Oui.
Donc, ça serait bien qu'on sache un peu... le montant de ce que coûte la première dame de France.
Mais je pense qu'on le saura, ça devrait faire partie.
Pourtant, c'est marqué que Madame ne bénéficie d'aucune rémunération ni d'aucun fait de représentation au budget propre, les moyens pour ses activités étant pris sur le budget de la présidence. Donc, je ne sais pas si ça sera détaillé exactement et si on saura combien elle dépensera pour elle. Mais bon, les anciens présidents étaient tous mariés et leurs femmes, que ce soit Madame Pompidou, Madame Giscard d'Estaing, assumaient leur fonction de maîtresse de maison, comme toute maîtresse de maison, et avaient des fonctions sans réclamer quoi que ce soit de plus.
Bernard Ribal, sur ce sujet.
Oui, pour être franc, je m'en fiche un peu, hein, mais enfin bon, effectivement, c'est dans l'actualité politique.
C'est des petites. Comment dire, c'est une actualité symbolique quand même,
oui,
pour les Français.
Oui, mais il y a une contradiction énorme. On vient de parler de la loi de moralisation de la vie politique, où on interdit à une femme de parlementaire de travailler pour son mari.
Bien relevé, je ne l'ai pas lu dans la presse.
Mais la femme du président de la République, elle, non seulement elle a le droit, mais elle a quasiment le devoir de le faire, puisqu'on lui met un cabinet à disposition. Il y a là une contradiction, quoi. Le parlementaire, il n'y a pas droit. Il est même très méchant s'il le fait. Le président de la République, il est très méchant s'il ne le fait pas. Il faudrait quand même un petit peu de... Surtout que ça se passe dans le même mois, quoi. Il faudrait peut-être un petit peu de cohérence là-dedans. Alors, moi, ça ne me gêne pas du tout, parce que toutes les femmes de chefs d'État sont très sollicitées. Ou elles répondent à aucun courrier, ou elles ont un secrétariat. Mais il est certain qu'elles reçoivent énormément de sollicitations. Donc je ne vois pas effectivement pourquoi elle n'aurait pas des gens autour d'elle, dans un nombre raisonnable, des gens autour d'elle qui, comme les anciennes femmes... Alors il y a une ambiguïté avec M. Hollande, effectivement, mais comme toutes les anciennes femmes de chefs d'État, je ne vois pas pourquoi on lui supprimerait le droit de répondre au courrier. Quoi.
Un de la Doucette.
Surtout que le mot chartre, encore, vous me disiez, il y avait des problèmes de vocabulaire. J'étais justement regardé l'étymologie du mot chartre. Et le chartre, c'est à deux définitions. C'est ou un ensemble de lois constitutionnelles octroyé par un souverain, et je ne crois pas que ça soit le cas actuellement, ou des règles fondamentales, c'est-à-dire d'un ensemble de principes fondamentaux d'une institution officielle. Donc le mot charte comme le mot moralisation sont des mots qui sont dévoyés, qui n'ont perdu leur sens. Voilà.
Alors, avant qu'on fasse une première pause, ça sera peut-être d'ailleurs la seule de cette émission, même si ça remonte à assez loin, j'aimerais qu'on parle de l'épisode du démission du chef des armées françaises. On va peut-être pas refaire tout le film, mais quand même, c'est semble-t-il la première sans précédent depuis 1958 dans l'histoire de la République, donc le 19 juillet dernier, voilà, que je ne retrouve pas son nom, le chef d'état-major des armées, De Villiers, pardon, donc, a démissionné de ses fonctions après un épisode pendant l'été où, en gros, je résume évidemment à gros traits, hein, il militait depuis au moins décembre 2016 donc pour que le budget de l'armée soit porté à 2% du produit intérieur brut. Il a insisté pour la campagne présidentielle, donc ce SEMA, comme on dit. Le candidat Macron s'était engagé à 2% à l'horizon 2025. Et puis, a été annoncé par Gérard Darmanin donc que le budget des dépenses publiques allait diminuer pour la défense de 850 millions d'euros. Ce SEMA, en sortant d'une commission défense à l'Assemblée nationale, aurait dit « je ne me laisserai pas baiser comme ça ». Et après, la suite est devenue plus compliquée, puisqu'Emmanuel Macron a réaffirmé, à l'occasion du traditionnel discours aux armées le 13, il a dit « je suis votre chef ». Il paraît que ça a été donc une humiliation pour ce chef des armées. Je voulais juste qu'on l'évoque parce que, il y a quelques jours, c'était le 5 septembre dernier, le général Lecointre, qui lui a succédé, qui devait, semble-t-il, avoir comme lettre de mission d'être plus docile, à la faveur d'une rencontre avec... enfin, je ne me souviens plus exactement de la rencontre, mais toujours est-il qu'il a eu les propos suivants. Une armée est un gros paquebot, on ne construit pas et on ne reconstruit pas un appareil militaire à deux coups de cuillère à peau. Les réflexes de régulation budgétaire sauvage viennent trop souvent, malheureusement, détruire le travail de cohérence qui était effectué dans le cadre de l'élaboration de la loi et programmation militaire. Bref, le successeur réitère, probablement en tirant gravement la sonnette d'alarme sur l'état des forces françaises. Et quand on est en état d'urgence, c'est difficile de ne pas être sensible à ce signal d'alarme. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ces sorties de... c'est quand même très inhabituel dans la vie d'une république d'avoir, de manière publique, ce différend au sommet de l'État. Bernard Ribal.
Pour le coup, je donne raison au président de la République, là. D'abord, c'est pas du tout la première fois sous la Ve République. Il y a eu, hélas, des cas beaucoup plus tragiques où au moment de la fin de la guerre d'Algérie, ou au moment de l'OAS, le général de Gaulle, président de la République, mettait en état d'arrestation 4 généraux d'armée, c'est 5 étoiles. Hein. Le même nombre d'étoiles que le général de Villiers, qui n'a pas été mis en arrestation. Il est vrai qu'on n'était pas dans le même contexte. Mais le fait de rappeler à l'armée qu'elle est soumise au pouvoir politique, elle est soumise au pouvoir politique, me paraît extrêmement important. On voit les ennuis qu'ont les Américains avec leur armée et avec leurs services secrets. Il y a des cas où on se demande si le président est vraiment au courant de ce qui se passe dans ses services secrets. Ils sont tellement secrets que même le président en sait trop rien. Et l'armée est un lobby parmi les lobbies. Il n'est pas souhaitable qu'en France l'armée et la il faut que ça soit la grande muette, comme on disait. Hein. Quand on choisit l'armée, on choisit pas des déclarations qui sont de l'ordre politique. Maintenant, que le chef d'état-major des armées dise au président de la République dans son bureau, Monsieur le Président, ça va pas du tout ce que vous faites, ça va pas. Et je suis vraiment, et même qu'il emploie des mots forts, s'il en a envie, pour dire au président, ça va pas du tout. Là, d'accord, il est fait pour ça. Hein, mais qu'il le fasse en public, et surtout, je me ferai pas baiser.
Même si ses propos n'étaient pas en public, c'était à huis clos, et du coup, il a été reproché que le journal Le Monde les rapporte, disant que c'était très grave de rapporter ses propos qui étaient censés être en huis clos.
C'était un moment, un lieu où il pouvait s'exprimer, justement. Ouais,
c'était tellement un huis clos qu'on en parle à la radio, quoi. Bon.
Moi, je partage. Oui.
Allez-y, Anne de la Doucette.
Moi, je ne partage pas du tout votre avis. Je pense que, quand on parlait du général de Gaulle, le général de Gaulle, il avait été militaire, il avait combattu, il était parti en Angleterre, il avait pris des risques. Monsieur Macron a 39 ans, n'a jamais gouverné des hommes, ne sait pas ce que d'emmener des hommes à la guerre et sur des terrains où il risque de mourir. Je pense que le général de Villiers, il a exprimé cette colère, alors qu'il a servi le président Hollande pendant des années, c'est que l'armée va pas bien, c'est que l'armée manque de matériel. J'ai plusieurs, dans ma famille, pas mal de militaires, d'amis généraux. Il manque de matériel. Quand on a des matériels anciens, c'est la vie des hommes qu'on met en cause. Et je crois qu'on ne peut pas, notre armée a montré qu'elle était extrêmement dévouée, qu'elle part sur tous les terrains, que depuis des mois, elle a fait cette opération Sentinelle dans la France.
Mais c'est un autre problème, ça.
Oui, oui, mais elle est à bout. Ouais. Elle a besoin de cet argent. Je crois que le Monde ait transmis cette phrase est un homme, mais il s'est comporté un peu comme un petit chef. Je crois qu'il a oublié ce que c'était que le principe d'autorité, Monsieur Macron.
Daniel Cavanis, vous allez peut-être réconcilier deux, puis on va faire une première pause musicale.
Oui, alors je comprends l'indignation du militaire, mais en même temps, c'est une tradition dans notre pays que chaque fois qu'on a un problème, on veut plus. Hein, l'éducation nationale à laquelle j'appartiens est l'illustration de ce problème-là. Il y a un souci. Si on avait plus d'argent, ça irait mieux.
Oui, mais l'éducation nationale, son budget n'a fait qu'augmenter. La défense est passée de 5 à 2%. Du budget national.
Et là, il est dit à propos de la défense française, c'est ce qu'a laissé entendre le général Lecointre, c'est qu'en fait, il y aurait un risque à terme, à force de trop tirer justement sur l'état des troupes et des moyens, un risque d'effondrement systémique, disant en fait, une armée, ça ne se renouvelle pas, tout d'un coup, on ne décide pas de renouveler une armée, en fait, c'est tout un...
Il a tout à fait raison. Simplement, le problème qui reste complètement ouvert, c'est de celui des choix que l'on fait pour l'armée, et tout ne passe pas par plus d'argent, parce qu'il y a peut-être des choix qui peuvent être extrêmement opérationnels, mais qui ne coûtent pas nécessairement plus cher, parce qu'ils seront concentrés sur certains objectifs. Et là, c'est effectivement au président de la République de conduire le bateau, c'est lui qui est le chef.
On va faire une pause. Bernard Ribal.
On est le pays le plus belligérant de la planète, puisqu'on a le record suivant d'avoir toujours été en guerre chaque année depuis 250 ans. Il n'y a aucun autre pays qui est dans le même cas. Et ce n'est pas un reproche, ça. On pourrait l'entendre comme une critique. Ça veut dire que la France s'occupe des problèmes mondiaux et elle a raison d'avoir cette responsabilité de ne pas s'isoler, et elle a besoin de moyens. Mais je crois qu'elle a quand même quelques moyens, il faut en davantage, mais on est quand même un des 3 ou 4 pays qui pouvons projeter nos armées à n'importe quel endroit de la planète. Hein. On n'est même pas 5.
Voilà, j'ai pas le temps de tout rappeler, mais en tout cas, il y a eu comme une forme de marche arrière, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais d'Emmanuel Macron, et ils ont promis quand même à l'avenir un peu plus de moyens, même si ces moyens sont différés. Voilà, on fait une première pause et après on va parler de sujets internationaux.
Every mountain and hill they know.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, en cette semaine de rentrée, donc cette émission Vivante Église, du vendredi, le grand débat de Vivante Église, avec autour du plateau aujourd'hui, je vous rappelle, Daniel Cabanis, ancien professeur d'histoire du droit à l'Université Toulouse 1 Capitole, Anne de la Doucette, fondatrice de la formation Passeur d'Espérance, formation d'anthropologie chrétienne à Toulouse, et Bernard Ribal, entre autres conseiller spécial du président de la CFTC, ce syndicat chrétien, et président des Semaines Sociales de Toulouse. Alors, les sujets internationaux, on va avoir un petit peu moins de temps. Donc, Daniel Camille sera frustré, puisqu'elle est aussi chroniqueuse géopolitique sur Radio Présence, mais elle a l'habitude. Je voulais quand même qu'on parle de Barcelone. Alors, les faits, voilà, tout le monde les connaît, mais je les rappelle quand même. Le 17 août dernier, 14 personnes sont mortes après qu'une camionnette, c'est combien d'heures de voiture ici ? 3 heures de voiture de Toulouse, fonce sur la foule, donc sur la Rambla, un des symboles européens. On va dire du vivre ensemble, d'un vivre ensemble ouvert, pour utiliser un terme qui plaît beaucoup à Anne de la Doucette. Toujours est-il que donc il y a eu 14 morts et des centaines de blessés. Il y a eu parmi ceux-là 26 Français qui ont été victimes, dont 11 grièvement blessés. C'est un attentat qui a été revendiqué par l'État islamique, qui a dit la chose suivante. L'opération a été menée en réponse aux appels à cibler les États de la coalition internationale anti-djihadiste opérant en Syrie et en Irak. Bref, la guerre s'est invitée chez nous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en introduction ? Je dirais juste que j'ai lu en préparant l'émission que les services secrets américains en fait avaient prévenu les Mossos d'Esquadra quelques temps avant, disant que ça allait arriver. Voilà. Et du coup, on se dit quand est-ce que ça va arriver à Toulouse ? Il n'y a probablement à la fois pas grand-chose à dire. Hein. C'est d'ailleurs un reproche qui a été fait, qu'il valait mieux se taire dans pareilles circonstances. Et en même temps, certainement que chacun a lu des choses intéressantes sur ce sujet. Daniel Cabanis, qu'est-ce que vous diriez ?
Bon, la chose que j'aimerais souligner, c'est que cette fois-ci, ce qui n'a pas toujours été le cas, non seulement en France, mais dans d'autres pays, la communauté musulmane espagnole est montée au créneau avec une détermination admirable pour dire très clairement, sans l'ombre d'une ambiguïté, qu'il se désolidarisait complètement, que l'islam, le vrai islam, ce n'était pas ça, et qu'ils étaient solidaires avec les blessés, avec les familles des victimes. Et ce sont des gens très jeunes comme des gens plus âgés, des femmes voilées comme des jeunes filles en cheveux, comme on disait autrefois, qui ont défilé avec une clarté dans l'expression qui mérite d'être souligné, qu'on n'a pas toujours eu à l'occasion d'autres attentats.
Anne de la Doucette.
Peut-être que ça a été aussi pour eux un choc de voir un imam concerné par la question et que, en tout cas, les Espagnols ont très rapidement réglé la question.
Vous voulez dire quoi par là ? C'est qu'il y a un imam qui est mort ?
Il y a un imam qui était responsable des attentats. Okay. Donc c'est quand même, moi je pense, comme nous, on avait aujourd'hui un prêtre qui était responsable d'attentats. C'est extrêmement violent pour une communauté de voir qu'un imam, ses responsables religieux, participe à un attentat qui tue des personnes, qui tue la vie. Moi, une chose qui m'a frappée à ce moment-là, mais c'était un tout petit peu différent, je dévie, c'était notre ministre de l'Intérieur qui a commencé à vouloir dire que toutes les personnes qui avaient mettaient des attentats avaient des problèmes psychologiques et qu'il voulait monter une cellule spéciale avec les psychiatres. Et là, je trouvais que cette défiance un peu dangereuse. D'ailleurs, les psychiatres l'ont assez vite recadré, parce qu'il ne faut pas tout mélanger et que...
Voilà. C'est trop simple. Si ce ne sont que des fous et des malades...
C'est trop simple.
Je veux dire, il suffit de mettre au point la thérapie. Enfin, c'est pas si simple, mais je veux dire...
Un peu de responsabiliser. Il y a eu un procès célèbre à Eichmann à Jérusalem sur ce sujet, après-guerre. Oui.
Tout à fait. Et puis si c'est un... personne qui a des problèmes psychiatriques qui commet un attentat, ce n'est plus un... Je crois que les conditions de dédommagement des victimes ne sont plus les mêmes.
Du tout.
L'État est beaucoup moins engagé.
Bernard Ribal, qu'est-ce que ça vous inspire ? J'ai oublié de dire que en fait, l'attentat devait être de beaucoup plus grande ampleur et qu'entre autres, cet attentat devait avoir lieu autour de la Sagrada Familia. Voilà.
Oui.
Ce qui n'est pas rien.
Moi, je crois que ça a été, la répétition de Nice, puisque c'est un peu la même forme d'attentat. Ce qui me frappe, c'est un petit peu ce que disait madame. Ce qui me frappe, c'est une réaction très forte des musulmans catalans et espagnols. Je suis président du comité scientifique de l'Institut des hautes études du monde religieux, où il y a aussi l'Observatoire de la laïcité, le ministère de l'Intérieur et toutes les religions représentées. Et on est très attentif dans cet institut à ce qui se passe dans les réactions aux attentats. Ce que je remarque à titre personnel, et non pas au nom de l'Institut, c'est que ces musulmans très sincères qui manifestent contre les djihadistes et leur manière d'agir sont très nombreux, mais en Europe, quoi. On ne trouve pas ce pourcentage dans les pays arabo-musulmans. Et ça crée un très très grand déséquilibre.
Un malaise peut-être.
Qui est dangereux quoi, pour l'avenir de la paix. Quoi.
Vous voulez dire que, qu'est-ce que vous voulez dire par là en fait, vous croyez un islam de France vous mais...
Je constate que fort heureusement que l'islam en France, pour ce que j'en connais, je connais quand même un peu par travers cet institut, est un islam qui, de plus en plus, et non pas de moins en moins, de plus en plus est dans les manifestations anti-djihadistes, et de façon très sincère, hein, comme vous l'avez dit, très spontanée. Mais que, hélas, ça n'existe que dans les pays d'Europe, quoi. C'est les musulmans à culture européenne, en quelque sorte. Et les musulmans à culture arabo-musulmane, dans les pays du Maghreb, dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays d'Asie, les pays musulmans d'Asie, hein, ils ne sont pas tous musulmans, sont en majorité, semble-t-il, favorables, ils ne sont pas tous djihadistes, mais plus ou moins favorables aux djihadistes. La question claire qu'on peut se poser, quand un attentat djihadiste se produit et cet attentat fait des morts, est-ce que c'est une joie dans le monde islamique ou est-ce que c'est une tristesse? C'est une tristesse pour les personnes dont a parlé madame, pour ceux qui ont manifesté après l'attentat. Mais on sait très bien que c'est plutôt une joie dans la majorité des pays arabo-musulmans.
Mais vous avez lu des études pour ça, parce que c'est quand même lourd comme propos ou comme...
C'est plus que des études.
Comme accusation.
C'est plus que des études. Il n'y a qu'à lire la presse quoi, de ces pays-là. C'est plus que des études. La presse de ces pays-là, y compris des pays les plus démocratiques parmi eux. Hein. Alors j'allais citer le Maroc, qui n'est pas forcément un exemple de démocratie, mais enfin c'est là où ça se passe des fois le moins mal. Les journaux ont vraiment du mal hein, à écrire quelque chose qui peut ressembler à une critique du djihadisme. Ils ont du mal. Et s'ils ont du mal, c'est qu'ils ont peut-être raison d'avoir peur, quoi.
Voilà, on va avancer parce que le temps passe et il y a d'autres sujets. Non, j'avais quand même juste une dernière chose. Il y a eu une grande manifestation donc, qui a eu lieu après ces attentats sous une seule bannière, normalement « No tinc por », je ne sais pas si je prononce correctement, « Je n'ai pas peur » en catalan. Il y a 2 millions de personnes qui ont défilé, mais en fait, ce défilé a... Il y a eu quelques bugs dans le défilé, entre autres pour des histoires de velléité d'indépendance de la Catalogne, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre de manifestants qui ont commencé à sortir des pancartes « We want peace, not arms sales », « Nous voulons la paix et pas des ventes d'armes », parce que l'Espagne, comme d'autres pays européens, vend des armes au Qatar, à l'Arabie Saoudite, et on connaît la suite. J'ai trouvé que c'était quand même intéressant, parce que là, ils étaient chargés, en fait, tout le monde était chargé d'être solidaire, paisible et plein de compassion, et devant le roi, qui semble-t-il marchait de manière exceptionnelle en tête de ce cortège, certains ont commencé à dire...
Pas en tête.
En tout cas, on commençait à poser cette question. Alors, on en a parlé plusieurs fois à cette antenne, hein, ça se sait maintenant de plus en plus dans toute l'opinion publique, et ça n'est pas sans poser de questions, je sais pas. Est-ce que l'un ou l'autre a une petite réaction sur ce sujet?
La vente des armes, hélas, vous le savez, on le sait tous, ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est très grave, c'est le double jeu que tout le monde connaît d'ailleurs, hein, le double jeu de certains pays du Moyen-Orient, qui officiellement sont de la coalition américaine et qui, par ailleurs, ont des amitiés intimes avec des leaders. Terroristes et des amitiés qui fournissent argent, armes. Alors c'est pas une amitié d'État. Officiellement, l'État les soutient pas. Officiellement, l'État est contre même. je parle de l'Arabie Saoudite, pour ne pas la nommer, ou d'autres pays. Alors, le Qatar, c'est un peu différent, parce qu'il c'est chiite, enfin, ses soutiens sont chiites. Mais je crois que là, on ne peut pas continuer à faire semblant de croire qu'ils ne mentent pas, quoi. Moi, je suis d'accord pour que la diplomatie soit diplomatique, c'est-à-dire un peu mensongère sur les bords, parce que c'est un moyen de dédramatiser les tensions. Mais de là à, pendant des décennies, nous raconter qu'on est l'allié de l'Arabie Saoudite, moi, je ne sais pas, mais il y a un problème, quoi.
Alors, on va passer à la Corée du Nord. La parole est à vous, Daniel Cabanis. Donc, la Corée du Nord, je ne vais pas résumer la situation. Elle est quand même à peu près connue du grand public. Toujours est-il qu'il y a eu un dernier tir d'un missile intercontinental à capacité nucléaire. C'était le 29 août dernier. Et le ton... alors, on a l'habitude d'entendre que le ton monte sur ce sujet, hein. Mais bon, Donald Trump, je ne sais pas si c'est forcément la bonne personne à citer en pareille circonstance, mais il est quand même président des États-Unis. En février dernier, il avait dit la Corée du Nord pose un très gros problème. Ensuite, il a dit que Kim Il-jung était un fou avec des armes nucléaires. Et maintenant, il va encore un peu plus loin. Je vais vous laisser répondre. Et puis, je vous dirai ce qu'il a dit. Toujours est-il qu'il y a essai après essai. Mais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, on a l'impression qu'il y a quand même un pas qui est franchi, puisque maintenant, vraiment... le territoire américain, au moins le territoire, enfin, c'est d'autres territoires comme le Japon ou autres, sont potentiellement des cibles.
Oui, alors c'est clair que le président coréen veut faire une démonstration de sa force et de sa puissance, chef d'une dictature militaire et politique extrêmement forte avec une population bien endoctriné derrière lui, ce qui ne veut pas dire que tout le monde soit convaincu, mais qui en tout cas joue globalement, peut-être par peur, le jeu de la solidarité avec son chef. Il joue sur du velours. Alors, je ne vais pas me mettre à défendre ce président nord-coréen qui est indéfendable, mais en même temps, je crois qu'il faut essayer, le président Carter en son temps l'avait fait, de comprendre que il est dans une situation extrêmement inconfortable dès lors que son pays et la Corée du Sud ne sont toujours en guerre. Il y a eu juste un armistice, il n'y a jamais eu de traité de paix. Et la démarche de la Corée du Sud depuis de nombreuses années, c'est en régression actuellement, mais jusqu'à il y a 2 ans, c'était encore très net, était de tout faire pour qu'on puisse se réunifier et d'invoquer l'exemple allemand, etc., etc. Maintenant, les Coréens ont changé d'avis parce que ça leur coûterait beaucoup trop cher, donc je pense que ça n'est plus dans leurs objectifs. Mais dans l'imaginaire des Coréens du Nord, c'est la peur d'être absorbés, de devoir tout ce à quoi ils ont cru à tort ou à raison disparaître, être absorbés dans une société où ils ne représenteraient plus rien. Et évidemment, les Américains sont le grand Satan dans ce cas-là, puisque ce sont eux qui sont derrière la Corée du Sud. Déjà, ils la défendent militairement.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, du coup ? Quelle solution diplomatique ça...
La solution diplomatique, enfin, il n'y a qu'à, c'est facile à dire. Il y a aussi beaucoup de faucons. Mais il faut mettre en place un système de dialogue forcé pour qu'un traité de paix soit signé, pour que ces deux pays bénéficient d'une reconnaissance internationale complète, sans réserve, et qu'à ce moment-là, étant intégrés de facto et de force dans la communauté internationale, mais à rang à peu près identique, ou même tout à fait identique, ils soient obligés de cohabiter. Parce que je ne crois pas que le président de la Corée du Nord ait vraiment intérêt à déclencher une guerre nucléaire ou non, d'ailleurs. Parce qu'il sait très bien que s'il le fait, il ne restera rien de la Corée du Nord.
Parce qu'ils n'ont pas le même nombre de têtes nucléaires, en l'occurrence. Hein, c'est...
Voilà. Et ils seront complètement détruits. Ce qui a commencé à marcher en matière économique sera ravagé. Donc, ce n'est pas son intérêt de faire ça.
Mais de toute façon, la Chine n'aurait jamais laissé la Corée du Sud récupérer la Corée du Nord. C'est quand même pas une chasse gardée, mais c'est une...
Tout à fait. Mais il y a, disons, des degrés dans la réunification, en tout cas avec une libre circulation. On était sur ce schéma-là. Et la Chine n'y était pas très favorable, mais n'y était pas totalement hostile non plus. Et ce sont les Coréens qui d'ailleurs essayent de convaincre leurs alliés traditionnels chinois qu'ils sont absolument légitimes dans leurs revendications identitaires et d'avoir un certain besoin de reconnaissance. Parce que quand Trump dit que le chef d'État coréen est fou, sauf tout le respect qu'on lui doit, il dit n'importe quoi. Parce que c'est un garçon...
Pourtant, c'est ce qu'on lit dans la presse. On lit qu'il est...
C'est un dictateur.
Un homme à pathologie.
Peut-être, c'est un dictateur. Mais enfin, les gens qui l'ont approché pendant plusieurs années quand il était jeune et qu'il était en formation en Occident... le présente comme un garçon qui n'est pas fou du tout. Alors qu'il soit endoctriné, qu'il ait des projets qui sont extrêmement dangereux, là-dessus, je crains qu'il n'y ait pas de doute. Mais le traiter comme un fou, or un fou, on doit le déposséder, parce que c'est ça l'idée. Hein. Il est fou, il est dangereux, donc il ne peut pas rester. C'est peut-être une maladresse nouvelle commise par le président Trump.
La déclaration de Trump, je l'ai retrouvée, c'est « Ils se heurteront au feu et à la fureur comme le monde n'en a jamais vu ». Bernard Ribal, deux minutes.
Je suis surpris de l'attitude de l'opinion publique française qui n'a pas l'air de considérer ce conflit latent entre la Corée du Nord et peut-être le reste du monde, enfin au moins les États-Unis, comme quelque chose de très très grave et de très très important. Et les titres de journaux se mesurent en centimètres de lettres.
Parce qu'on est habitué aussi à ces...
Et bon,
ces tirs deviennent presque des épisodes.
Moi, je crois qu'on est en situation... j'aime pas les théories du complot, moi, hein, je suis pas du tout. Mais là, je crois qu'on est en situation extrêmement dangereuse, hein, très très dangereuse. Il suffit qu'un navire de guerre décide, pour des raisons inconnues, de tirer, et c'est la déflagration. Hein. En plus, on a un chef d'État coréen qui était peut-être pas fou quand il était jeune, mais quand on met une casquette importante sur la tête de quelqu'un, même en France, ça le change de psychologie. J'ai l'impression qu'il a changé de psychologie avec sa bombe H. Et d'autre côté, M. Trump n'est pas non plus quelqu'un de forcément très, très équilibré, quoi. Mmh. Et donc, la situation est de guerre forte, voire de guerre nucléaire, n'est pas complètement écartée, quoi.
Voilà, ce sera le mot de la fin. C'est pas forcément le mot le plus heureux, mais bon, en même temps, c'est ce que vous pensez. Merci beaucoup d'être venu pour cette première émission, le grand débat de Vivante Église, avec ou sans téléphone. Non, je vous taquine, Bernard Ribal. C'était la première, donc vous êtes tout excusé. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.